Céline au maquis, une nouvelle inédite de Jean-François Roseau pour le magazine Cuit. Oscar Rosenbly, juif corse, qui volait les chaussures à Popol et qui est venu après mon départ ravager mon appartement. Louis Ferdinand Céline à Henri Mahé, le 26 mai 1949. L'éditeur trimballé. Pontelletch, août 1990. Au niveau du rond-point, après l'église du Sacré-Cœur, Pierre coupe le moteur sur le terre-plein bétonné qui sert de parking aux clients du carré d'As. Sa Citroën Visa paraît minuscule entre les hauts pick-up garés de part et d'autre. Leur roue boueuse et la tôle cabossée des portières trahissent les trajets chaotiques sur les sentiers du coin. Rien à voir avec les voitures alignées le matin même dans les rues endormies du 7e arrondissement lorsqu'il a déserté Paris aux premières heures du jour. Pierrat n'a pas l'habitude des voitures de location, parfumées à la menthe ou au citron, ni de ces routes enlacées qui s'amusent à danser autour des montagnes escarpées. Il n'a pas dormi plus de 3 heures, le temps d'éplucher au bureau les archives de l'honorable maison d'édition où il œuvre depuis 20 ans à l'enrichissement du plus fabuleux catalogue de la littérature française. Ses paupières sont lourdes, sa bouche molle et pâteuse. Il éprouve soudainement tout le poids de son corps dont l'épuisement s'empare. Un haut-le-cœur le saisit à la descente du véhicule. Pierrat pose ses mains sur ses genoux, respire lentement, se redresse, puis allume une cigarette. 3 bouffées lui suffisent. C'est bon. Il se juge tout à fait ragaillardi. À quelques pas de la terrasse, des touristes en maillot de bain terminent de vider leur caddie rempli de surgelés fraîchement achetés dans les allées colorées du Codec. À gauche, des chasseurs se dirigent vers le comptoir. Lorsque l'espace autour de lui est pleinement dégagé, il ouvre prudemment le battant supérieur de son coffre, en retire une large valise de cuir brun, flanqué de 2 énormes sangles, et s'avance vers la terrasse du carré d'As en scrutant patiemment chaque table. Son pas se ralentit. Il hésite, cramponne d'une main ferme la poignée de la valise avec un œil craintif de soldat sur ses gardes. Déçu, il consulte le cadran de sa montre. Midi n'a pas encore sonné, mais l'air est d'une lourdeur poisseuse. Le mois d'août s'achève dans des nuées de grisaille. Il ôte sa veste avec précaution et retrousse les manches de sa chemise, auréolée de taches brunes et chiffonnée de plinettes. Il fait chaud, le vent est rare et le ciel assombri prend sa mine orageuse des mauvais jours d'été. L'homme est rasé de près, chaussé de daim, cravaté de soie, tout droit sorti de son bureau de la rue Sébastien Bottin. Ici, son élégance semble de mauvais goût. Elle détonne avec l'intimité joviale des retraités dépoitraillés qui ne vivent plus que pour leur partie de belote. Il consulte à nouveau son poignet, fixe les alentours et se laisse influencer par le choix des habitués. Il doit penser que cela faisait local. « Un pastis !» lance-t-il à la serveuse dont le plateau en équilibre vient de se décharger de plusieurs assiettes généreusement garnies. Il n'a pas faim. Sous sa langue et dans le creux de ses gencives, il sent encore le goût amer des pistaches trop salées que les hôtesses lui ont servies pendant le vol. Il déteste l'avion. La voiture le rend malade. Mais une passion bizarre, teintée de curiosité, l'a doublement éprouvée en lui infligeant le même jour, après 2 heures de vol, une 50aine de bornes à parcourir sur des routes sinueuses. L'avant-veille, un certain Rémi Carl Bosso lui a donné rendez-vous pour l'entretenir d'un sujet de première importance. Les détails étaient rares et les questions nombreuses, mais l'évocation d'un seul nom, joint à quelques appâts, avait suffi pour qu'il quitte Paris aussitôt. Ce nom, c'est celui de Louis Ferdinand Céline. Bosso souhaitait lui parler de manuscrits inconnus, romans, brouillons et lettres dont l'écrivain, mort il y a près de 30 ans, avait perdu la trace après son retour du Danemark. Il possédait des centaines de feuillets qu'il était prêt à vendre. Seuls les tarifs restaient à négocier avant le grand bradage. C'était son propre mot. Dans le courrier qu'il avait adressé rue Sébastien Botin, Bosso avait glissé une lettre manuscrite que Pierrat, sans rien révéler de sa provenance, avait fait doublement authentifier. D'abord par des experts en écriture, ensuite par des spécialistes de l'auteur. Graphologue et Célinien étaient du même avis, la pièce était originale. Les échanges avaient continué par téléphone et Pierrat avait appris que Bosso disposait de nombreuses études préparatoires et d'un texte achevé. Il avait sous la main des fragments du Voyage au bout de la nuit et un roman totalement inconnu dont l'action se passait à Vienne dans l'entre-deux-guerres. « Ils sont comme en 40 », avait-il annoncé d'une voix joviale et mystérieuse. « Enfin, comme en 44, pas bougé d'un iota, il y en a que personne ne connaît. » Circonspect de nature, Pierrat avait d'abord cru à un canular, mais Rémy-Carl Bosso avait de quoi convaincre. À moins de 4 ans du centenaire de Céline, l'affaire était de circonstances. Mais ces circonstances même la rendaient plus suspecte et moins sûre aux yeux défiants de Pierrat. Son incrédulité le disputait pourtant à la curiosité et au secret désir que Bosso dise la vérité. Imaginez seulement qu'on sorte du chapeau un inédit de Céline. Coup de tonnerre sensationnel dans le ciel de l'édition. De quoi faire tourner jour et nuit les rotatives jusqu'à ce que les boulons sautent. Des ventes par centaines de milliers, un pont d'or pour pas cher et la presse à genoux pour quémander un bouquet de bonnes feuilles. Rien que d'y penser, Pierrat sentit doucement un feu de plaisir charmant lui monter à la tête. Il se reprit à temps pour ne pas succomber à la joie illusoire de tenir un miracle. Ça ressemblait surtout aux élucubrations d'un escroc inspiré. Pierrat en avait pleine conscience, mais le gain potentiel était tel et le coût si modeste, au pire quelques centaines de francs et une journée perdue, qu'il n'avait pas hésité longtemps avant de réserver son vol. Soudain, la voiture des chasseurs redémarre bruyamment. Elle fuit vers ces montagnes dont le sommet se fond dans le ciel ombrageux. Pierrat commande un second pastis et songe au paysage qu'il vient de traverser depuis son arrivée à l'aéroport de Bastia. Il songe qu'il passerait bien toute sa retraite en Corse, quand le temps sera venu. « Quelle merveille !» pense-t-il. « Un refuge idéal pour tous les bannis de la terre, de Sénèque à Céline. Il faut absolument que je fasse écrire un auteur là-dessus. » Ivre d'anis et de chaleur, une guêpe glisse sur la bordure de son verre. Les cloches l'arrachent à son engourdissement. Voilà midi qui sonne, l'heure de son rendez-vous. Rémy-Carl Bosso ressemble au son de sa voix. Il est âgé, mais d'allure vigoureuse, portant sous le bras une chemise pleine et traînant derrière lui une immense malle de bois verni. Il reconnaît Pierrat au premier coup d'œil et s'approche pour le saluer. L'éditeur le devance. « Monsieur, dit-il, avant d'être interrompu sans brutalité, mais d'un ton péremptoire. « Appelez-moi Karl, intime-t-il. « Ami ou pas ami, ici, tout le monde m'appelle comme ça. En tout cas au début. Nous verrons pour la suite, s'il y en a une. » Il accompagne ces mots d'un clin d'œil familier que Pierrat, presque séduit par le bonimenteur, n'arrive pas à trouver si vulgaire qu'il le souhaiterait. « Avez-vous fait un bon voyage ?»« Excellent, réplique Pierrat. Vos routes m'ont un peu secoué au début, mais l'air de chez vous revigore. Et puis j'étais impatient de vous rencontrer, ajoute-t-il, lançant à son tour une œillade interrogative vers la chemise bombée, bloquée sous les selles de Bosso. Celui-ci saisit aussitôt l'inquiétude de Pierrat. Ses lèvres esquissent un sourire rassurant et taquin. « Rassurez-vous, dit-il, je n'ai là qu'une partie. Vous êtes ici pour quelques heures, n'est-ce pas? Vous reprendrez bien un pastis. Et puis tiens, déjeunons. » Il fixe à son tour la valise déposée au pied de Pierrat et les deux hommes partagent l'un avec l'autre un regard entendu. Un silence de quelques secondes les fige, comme deux félins rivaux au moment de l'assaut. C'est Pierrat, sans préambule, qui attaque le premier. « Mais dites-moi, Karl, avant que nous n'y regardions de plus près, qu'est-ce qui vous incite à les vendre aujourd'hui ?»« Besoin d'argent, » réplique-t-il laconique et narquois, avant de se mordre la lèvre. Une ombre emporte sa bonne humeur. « Et puis, il me cherche. Et qui ça ? Tiens donc, mais le mauvais œil. Il a déjà tué Nimier. Qui voulez-vous que ce soit ? Et puis Marie aussi. » Pierrat fronce les sourcils, un instant déconcerté, puis réfléchit intensément pour discerner, sous les divagations de son interlocuteur, quelques bribes de logique estompée. Il n'y voit que folie, mais se garde de trahir sa pensée et de rompre l'élan de Karl. Bien au contraire, il entre dans son jeu. « Marie Nimier ? Mais non, s'irrite Karl, l'assistante de Céline, Marie Canavage. Puis, furetant autour de lui, d'un œil peureux, où la démence domine l'enthousiasme des premiers mots, il interroge. Vous n'avez pas été suivi. L'écrivain spolié. Avant son départ pour Bastia, Pierra avait sollicité plusieurs de ses collègues, éditeurs ou historiens, afin d'y voir plus clair dans les folles confidences de Bosso. Jaloux de sa découverte et de l'éclat qu'elle pouvait faire jaillir sur sa carrière, il n'en avait donné que les détails avouables, se limitant à évoquer une piste corse des manuscrits de Céline, volatilisée en 1944. On savait bien, chez Gallimard, que des tonnes de papiers à la Libération avaient disparu de l'appartement de la rue Girardon. Céline n'avait pas cessé de s'en plaindre, entre vitupération délirante et imprécation rancunière, dans ses lettres à Gaston Gallimard, comme dans tous ses romans d'après-guerre. Pierrat fut rapidement fixé sur l'intérêt de ces nouvelles pistes qui n'avaient rien d'absurde. À la lumière des recherches engagées et des travaux produits, il apparut que les propos de Bosso n'étaient pas entièrement saugrenus. Les fameux manuscrits disparus de Céline, c'était une vieille rengaine. En creusant davantage, Pierrat découvrit même que Claude Gallimard, l'année même de son départ à la retraite, 2 ans avant la lettre de Bosso, avait reçu une proposition comparable. Aucune adresse n'avait été mentionnée, mais un nom s'était fait connaître lors des tractations. Une certaine Rosélie C. Ambor, soi-disant apparentée à une amie australienne de Céline, proposait de restituer à l'éditeur, moyennant une compensation raisonnable, des manuscrits que l'auteur aurait spontanément confiés à sa parente. Au début, ce nom ne disait rien à personne, et le directeur du groupe, échaudé par les injures ordurières dont Céline les avait continuellement accablés, son père et lui, près de 30 ans plus tôt, ne tenait pas particulièrement à rouvrir ce dossier déplaisant. Céline à Canberra, ça sentait l'entourloupe à 15 000 km. Et puis un éditeur un peu moins oublieux, ou plus savant que les autres, avait sonné l'alerte. En un rien de temps, Gallimard avait pris la chose au sérieux. Ambor, c'était le nom d'une maîtresse de Céline. Silly, de son prénom, une belle viennoise d'origine juive qui avait fui l'Autriche après l'annexion du pays par Hitler. Céline lui avait rendu visite en 1932, l'année même du voyage. En réalité, Silly Ambor n'avait rien d'une Australienne, mais c'est en Australie qu'elle s'était réfugiée après avoir quitté l'Europe. Avec le flair connu de sa dynastie, le vieux Claude Gallimard et ses limiers avaient tout lieu de croire que cette Rosélie C. Ambor, cousine ou descendante de la danseuse viennoise, avait les clés d'un trésor infini. Seulement, l'affaire s'était corsée au moment d'évoquer les dédommagements. L'héritière inconnue exigeait des sommes astronomiques que le patron d'alors, qui n'avait ni la passion de son père, ni la patience requise pour chasser des chimères, avait trouvé extravagantes. « Ils nous prennent donc pour des pigeons en Autriche » s'était-il exclamé, et la piste en bord avait été abandonnée, séance tenante. Il n'en restait pas moins que le système de classement des archives Gallimard était d'une telle rigueur que Pierre a pu consulter les nombreux documents semés dans le sillage des manuscrits égarés de Céline. Y avait-il un lien entre Ambor et Bosso? Était-ce la même personne qui, après le détour australien, revenait par la Corse? Bosso, était-ce un homme qu'avait connu Céline? Avant de le rencontrer, Pierrat interrogea tous les vieux de la maison qui avaient fréquenté Céline du temps des parutions de « Féerie pour une autre fois » dans les années 50. Entre-temps, pour ne pas perdre le poisson, il continuait d'échanger régulièrement au téléphone avec Bosso. De plus en plus loquace, celui-ci laissait entendre qu'il possédait un roman capital dont l'ambition valait celle du voyage au bout de la nuit. Question manuscrit, il y en a au moins pour 500 000 francs, clamait-il, vantard et provoquant. Comment le savez-vous? Demandait naïvement Pierrat. Je me renseigne, répliquait-il, du tac au tac. Je lis la Gazette de Drouot comme d'autres suivent la bourse. Et vous seriez prêt à tout vendre? Très certainement, assenait-il, si vous mettez les formes et le prix avec ça. J'aurai même un cadeau en prime, un dessin de Jeanne Paul, offert pour l'achat des textes du vieux fou. Vous comprenez que je ne peux rien décider au téléphone, tentait Pierrat, plaçant ses pions d'une main habile, mais hasardeuse. Il poussait Rémi Carl Bosso à la faute, cherchant de quoi l'identifier, car une chose était sûre, ses manuscrits, s'il y en avait, n'avaient pas pu être acquis légalement. Trop de mystères les entouraient. Bosso devenait parfois nerveux, façon paranoïaque. « C'est entendu, rencontrons-nous. Mais chez moi, Paris c'est trop dangereux. Je sais qu'on en veut à mon bien et que certains seraient prêts à tout pour piller mes placards. Ce qui les intéresse, c'est le roman inconnu. D'autres l'ont payé cher. » Les manuscrits sont conservés en Corse ? Bien entendu, depuis longtemps. Ces mots avaient suffi à réorienter les recherches de Pierra, ou plutôt à les affiner, en leur fixant un cap géographique. Céline en Corse ? Pourquoi pas, après tout ? Du temps de la guerre, il avait fréquenté un tas d'insulaires plus ou moins recommandables, amis ou connaissances croisées dans les cercles mondains de la collaboration. Pierre Constantini, par exemple, un collabo de la première heure, avait sympathisé avec l'auteur de « Bagatelle pour un massacre ». À sa demande, le docteur Destouches avait complaisamment rédigé une attestation médicale permettant à Constantine d'éviter le front de l'Est en arguant d'une sciatique. Parmi les camarades, on trouvait également André Pulicani, peintre de son état, un ami corse rencontré chez Jeanne Paul, avenue Junot, dans le nord de Paris. Oscar Rosembly, son comptable occasionnel. Et puis bien sûr, Marie Canavage, la fidèle des fidèles, secrétaire minutieuse, pleinement dévouée aux épreuves de Céline et à leur correction. Autant de Corses qui auraient pu hériter du magot et le faire disparaître. Et sans parler des proches, les Corses étaient légion dans le Montmartre célinien. La pègre pullulait dans le Paris de l'occupation. De la rue Fontaine à la place de Clichy, bordel ou maison de jeu, les Corses administraient les commerces douteux et les divers trafics prisés par le milieu. Contrebande de cigarettes, vente d'armes, arrosage d'agents de police ou raclée sur commande pour régler les affaires d'un commerce complaisant. Il fallait commencer par chercher là-dedans, s'il n'y avait pas un bosseux quelque part. Le même ou un cousin, un fil rouge, éclairant pour remonter la piste qui menait au trésor. À force de recherche, Pierre crut tenir le bon bout. Il y avait bien, dans le Paris des années noires, un bosseau plutôt louche qui opérait aux abords de Pigalle. Charles Bosseau, dit l'athlète, avait fréquenté quelques années le clan de Jean-Paul Stéphanie comme petit marchand de cocaïne. Après l'assassinat de Stéphanie, il avait rejoint la bande d'Ange Salicetti, chargé de convoyer diverses marchandises de Paris à Toulon. Installé dans le quartier de Clignancourt, à deux pas de chez Céline, on l'avait vu fréquenter les mêmes endroits que l'auteur, ateliers ou cafés. Vers 1944, il avait opportunément rejoint la résistance et procédé à plusieurs perquisitions dans le nord de Paris. Rien d'étonnant à ce qu'il ait pu garder des manuscrits de Céline. Deux hypothèses étaient possibles. Que Céline les lui ait confiés par prudence ou qu'il s'en soit emparé pour les vendre. La deuxième était plus vraisemblable. Et si ce Charles Bosseau avait spolié Céline ? Tout s'expliquait clairement. Rémi Carl, c'était lui ou bien son légataire. Mais tout cela, au fond, importait peu. Pierra n'avait qu'un but, glaner assez de renseignements sur la provenance possible de ses manuscrits pour tempérer Bosseau, au cas où l'idée lui viendrait de réviser sans préavis les tarifs négociés pour les fameux feuillets. Plus de 1000 en tout. Dans un état parfait, suspendu à des pinces à linge que l'écrivain avait dû se procurer chez une mercière de la rue Lepic. Maintenant, ils sont tous devant lui. Les nuages se sont peu à peu dissipés dans le ciel de Pontelletch. Les feuilles sont bien là, sous ses yeux, formant une pile de papier jaune et lisse, légèrement racornie dans les angles. Des centaines et des centaines de pages griffonnées de la main de Céline. Bosseau a entrouvert la chemise sur la table ronde du carré d'As, entre leurs assiettes vides, au moment de la myrte qui scelle les contrats prometteurs. La malle à ses pieds reste close. Pendant le repas, la discussion a pris un tour surréaliste. Bosseau a évoqué le péril que ces textes représentent pour sa vie. Il semble convaincu que des fidèles de Céline, ou des ennemis jurés, cherchent depuis 30 ans à mettre la main dessus. Pour les détruire, ou pour les vénérer, il ne sait pas trop bien. Confusément, Bosseau a évoqué une liste noire des morts suspectes, autant d'assassinats ciblés dans l'unique objectif de faire main basse sur le chef-d'œuvre inconnu. Nimier en 62, ce n'était pas une blague. Ils ont trafiqué sa voiture parce qu'ils ne voulaient pas leur céder ses textes de Céline. Vous voulez dire que des gens ont tué Nimier ? Bien sûr, réplique Bosso. Assassinat ou sortilège. Et pas que Nimier d'ailleurs. Entre 72 et 77, ça a été l'hécatombe. Pour Gaston Gallimard, Henri Mahé, Jeanne Paul, la brochette de 1975, je dis pas. Ils peuvent très bien être morts naturellement. Mais pour Marie, vous ne me ferez pas changer d'avis. Elle était bien, Marie. Vous savez, elle est originaire d'un village à côté, Kanawaj, à moins de 20 minutes. Son accident de voiture en 76, c'était grossier. Je sais pas ce qu'il lui voulait. Mais Marie, je peux vous le dire, elle n'aurait jamais dérobé un seul petit papier. Pour les autres, je dis pas, hein, car c'est évident qu'ils ont dû en trouver des manuscrits de Céline. On est plusieurs à s'être servis après son départ. Et puis il y a eu Dominique Deroux, l'année d'après Marie. Lui aussi, il avait dû récupérer une flopée d'écrits de Céline. Quand je vous parle de malédiction, c'est à ce moment-là, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à vouloir tout bazarder. 50 ans que ça dort dans le maquis, dans un petit village qui se fout bien de Céline. Alors moi, vous savez, je voudrais pas mourir con avec un tas de papiers. Ils se taisent tous les deux. Bosso reprend son souffle, puis demande, passant au tutoiement. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? On n'entend que les guêpes. Le reste est là, ajoute-t-il en déverrouillant la grosse malle noire qui repose à ses pieds. Affaire conclue, répond Pierre. En reposant son verre, il se contente de faire glisser une enveloppe de papier Kraft. Le receleur démasqué. Paris, août 2021. Pierre, Jean Thibault de son prénom, a suivi avec gourmandise les enquêtes passionnantes qui entourent depuis peu la découverte des nouveaux inédits de Céline. On annonce une série de parutions pour les automnes à venir. Pierre y reconnaît la méthode Gallimard. Une dose de scandale, une pincée de mystère et de l'information feuilletonnée au compte-gouttes. Tout ce barouf l'a subitement fait rajeunir. Et il repense avec nostalgie à son premier voyage en Corse. Cela fera bientôt 30 ans qu'il a abandonné les travées de l'édition. Gardant pour lui les feuillets achetés sur un coin de table et le quart de la somme confiée par son patron. Il se souvient parfaitement de la ruse. Le retour à Paris n'avait pas été simple. Il avait fallu broder autour d'une rencontre manquée, d'un racket sans violence excessive dans un bar de Haute-Corse. La direction de Gallimard était furieuse, mais ne voulait surtout pas que l'aventure s'ébruite. 50 briques au pilon, parties dans un traquenard, ça donnait l'illusion que la maison pouvait mieux payer ses auteurs. À la gendarmerie de Corté, Pierrat avait raconté qu'il s'était fait piller par un octogénaire armé et menaçant. Impossible d'identifier ce Bosso. Ni Rémi Carl, ni Charles qui, aux dernières nouvelles, avait perdu la vie lors d'un attentat sur le continent contre un dépôt de l'armée française. Ses interlocuteurs de la gendarmerie étaient éberlués par cette histoire de manuscrits cachés dans le maquis. D'ailleurs, ils n'y comprenaient pas grand-chose. D'abord, parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter, en pleine reprise des règlements de compte au sein de la mouvance nationaliste. Ensuite, parce que leur routine est confrontée à des cas autrement plus sérieux. Il n'y avait que des cornes-culs de Paris pour gager une telle somme dans des histoires de brouillons inventés. Il y eut une enquête, des dépositions, des signalements, des interrogatoires. Et puis l'affaire fut rapidement classée. Pierre ne regrette pas son geste. Une carrière d'éditeur a suffi à lui enseigner l'essentiel. Que tout est littérature et que la fiction domine nos vies plus ou moins consciemment. La fiction ou le mensonge, tout dépend du regard amusé ou tragique qu'on porte sur la vie. Pour démasquer Bosso, il avait eu le déclic juste avant Pontelletch, en repensant aux Arsène Lupin de son enfance. Le coup du pseudonyme était une évidence. C'est là qu'il avait décidé de tout garder pour lui, juste avant sa rencontre au bar du Carré d'As. À Margoulin, Margoulin et demi. Et puis cette île était si belle qu'il resterait en Corse avec l'argent volé. Aussitôt dit, aussitôt fait. En 1991, Pierrat s'était installé au cœur des châtaigniers dans la commune de Lannes. C'est ce qu'on appelle quelquefois le coup de foudre. Comme tous les mythomanes, paranoïaques et affabulateurs, Bosso ne s'appelait pas Bosso. Pas plus qu'Ambor ne se nommait Ambor et que Céline ne se nommait Céline, puisqu'il s'appelait Destouches. Jean Thibault Pierrat sourit en se remémorant cette grande imposture des noms. Bosso avait disparu des radars quelques semaines après leur unique rencontre. Pierrat n'avait pas su comment, ni pourquoi ce vieux Corse insolite, originaire du Sud, avait tenu à ce que le rendez-vous ait lieu à Pontelletche. Il était mort à la fin de septembre, un mois après leur transaction. On ne saurait jamais si c'était sous l'effet de cette malédiction qu'il redoutait alors. Mais de même que Pierrat avait compris à temps que Rémi Carl Bosseau et Rosélie C. Ambor formaient une même personne, de même il comprenait que le secret rend fou et plein de fantaisie. Avec leurs 13 lettres communes, exactement les mêmes, ces patronymes offraient deux parfaits anagrammes d'un nom souvent cité dans cette affaire de vol. Oscar Rosenblit, ce Corse au passé interlope, hantant les rues de Montmartre et la mairie du 18e arrondissement. Ça le fait rire, Pierrat, tout ce ramdam autour des manuscrits de Céline. Guerre et Londres, ces faux livres à paraître dont Gallimard fera son beurre pendant plusieurs années. Il connaît bien la bête, et c'est ce qu'il a décidé de ne plus y mettre un pied après sa fameuse aventure. Il rit surtout des conjectures bouffonnes de tous ces excités qui cherchent l'origine des manuscrits trouvés. Ils peuvent toujours y croire à la piste Rosenblit. Elle est loin d'être fausse, et la rumeur dit vrai. Il y a bien du Céline au maquis. Pierrat tient le manuscrit à disposition du malin qui saura le retrouver en suivant sa démarche. L'état civil a quelquefois de ses inspirations. Soyons précis, allons au bout des choses. Bosseau Ambor s'appelait en vérité Oscar Jean, Louis Rosenblit. Secouez ces 22 lettres, réfléchissez un peu, laissez-vous emporter par la magie des mots et entendez seulement la voix du manuscrit qui distille des indices dans le vent des montagnes. Là, nous, Corse, j'y suis à l'ombre. Céline au maquis, une nouvelle inédite de Jean-François Roseau pour le magazine Cui. Interprété par le comédien Jean-Christophe Matson de la compagnie La Cible. Réalisation Jean-Christophe Attard pour l'agence Totem.